musique.
Caravanana maximum.
Ta gueule, ta gueule.
Je me fous du
sale, 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 sale.
La maladie fait partie intégrante de nos vies. Quand tu ne diras plus ta vue.
Vive mon pantalon!
Vive le soleil!
Vive
les oreilles!
Libre!
Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, 89.4 en région parisienne et partout ailleurs dans le monde, au Mans, radio-libertaire.net. Okay. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres, consacrée aux musiques singulières et autres formes de création curieuses. Aujourd'hui, nous recevons Isabelle Dutoit pour le festival Paysages d'écoute qui aura lieu du 22 au 24 novembre au Mans. Bonjour Isabelle.
Bonjour Christophe.
Alors on t'avait pas reçu, on avait été à Nancy t'enregistrer pour une émission il y a 3 ou 4 ans maintenant de ça. Très heureux de te retrouver à nouveau. La semaine dernière, il a été un peu question de toi puisque nous avons reçu Franz Odinger et on a écouté à cette occasion ton duo avec Franz. Et c'est d'ailleurs avec Franz que vous organisez tous les deux ce festival. Peux-tu te présenter, dire ce que tu fais, tu es musicienne, voilà.
Voilà, donc moi je suis musicienne, je suis clarinettiste et vocaliste. Je suis principalement improvisatrice. Et donc depuis quelques années, j'ai travaillé au Mans. Au départ, pour animer des ateliers voix avec un groupe d'amateurs. Et puis à un moment donné, Franz est venu me rejoindre pour lui travailler plus sur la partie instrumentale et de l'improvisation. Et donc nous avons mené déjà de longues années d'histoire et d'amitié avec le théâtre de l'Espal, scène nationale du Mans. Ouais. Et donc ce sera la deuxième édition ce mois de novembre.
Du festival Paysages d'écoute. Alors, on a commencé l'émission en écoutant Shin Baxter. On y reviendra plus tard quand il s'agira de dérouler la programmation du festival. Comment vous est venue cette idée de ce festival Paysages d'écoute ? Comment on a envie de faire un festival ?
Quand moi, j'ai commencé à travailler à l'Espal, c'était sous la direction de Dari Rosno, qui était l'ancien directeur. De ce merveilleux théâtre. Et il m'avait entendu dans un projet qui s'appelait Hic sunt leones, qui était un projet de la revue Éclair, une compagnie de théâtre à Paris. Et il m'avait entendu au Festival d'Avignon et avait beaucoup aimé mon travail vocal. Et on s'était rencontrés comme ça de manière vraiment informelle pour parler de moi, de lui, de l'art en général. Et puis quelques mois après, il me dit oh, finalement Isabelle, j'ai un projet pour toi. On va faire Il avait à ce moment-là un festival sur les voix du monde et il m'avait demandé d'animer un atelier de voix avec il y avait particulièrement beaucoup de femmes. Et donc ça a été ma première collaboration où donc il m'avait invité à faire en même temps un solo et aussi un duo avec Franz et puis cette chorale qui s'appelait à ce moment-là Local Vocal. Et puis après ça a donné lieu sur un autre projet avec des amateurs qui s'appelait Le Temps du Papillon où là il y avait 80 amateurs et puis encore un autre projet qui s'appelait The Sound is You qui était un projet qu'on avait mené Franz et moi. Donc un projet vraiment sur l'improvisation totale, instrumentale et vocale. Et ce projet qui s'était finalisé avec 12 musiciens qui avaient décidé d'improviser librement dans l'espace, dans le jeu et dans le son pour plusieurs représentations qui avaient lieu donc au Quinconce. Parce que cette scène nationale a la particularité d'avoir deux théâtres, les Quinconces et l'Espal. Et puis, suite à ce projet, on avait eu une rencontre avec Harry en lui disant on avait retracé toute notre histoire et qu'est-ce qu'on ressentait, qu'est-ce qu'on souhaitait. Et puis, on lui avait émis le regret qu'on sentait qu'il était très attiré par l'improvisation. Il était même vraiment, parce qu'Harry est aussi peintre. Donc on sentait qu'il avait vraiment une attirance profonde. Et on lui avait dit qu'on regrettait que l'improvisation ne soit pas présente dans sa programmation. Et ça avait fait tilt et du coup, la même année, il est parti à assister au festival Météo. Donc, on l'a vu pendant tout le festival et il se dit « Mais qu'est-ce que c'est qu'un festival d'improvisation ?» Et il a été très séduit par l'ambiance d'un festival, par le monde des improvisateurs, par le monde des auditeurs. Enfin, vraiment, cette particularité que peut-être nous on perçoit plus d'ailleurs comme particularité, mais qui appartient à notre scène et puis à tous les auditeurs qui sont là, où justement il y a plus de séparation entre celui qui écoute et celui qui joue. Il avait été très sensible à ces mondes qui cohabitaient d'une manière beaucoup plus riche et beaucoup plus profonde que celle que lui peut vivre dans le théâtre ou dans la danse. Et donc, il nous a invités l'année d'après à créer un festival, à être les curateurs d'un festival dans sa programmation. Et donc, il nous a donné un budget et la carte blanche pour créer ce festival. Donc, l'année dernière, c'était la première édition qui s'est merveilleusement bien passée. C'était très beau de voir comment, en même temps, les musiciens avaient accès à une scène très professionnelle, avec tout ce qui va avec, c'est-à-dire une grande équipe disponible à recevoir toutes les demandes, tous les besoins, toutes les nécessités pour que les concerts se passent au mieux. Toute l'équipe technique, administrative, d'accueil. Et aussi, eux, dans cette institution très... pas cloisonné, mais très organisé, de voir d'un seul coup cette musique arriver avec... les gens pouvaient arriver en retard au concert, pouvaient rentrer en retard dans la salle, pouvaient venir boire des verres entre deux concerts, pouvaient parler aux musiciens parce qu'ils restaient là pendant tout le temps du festival, sans contrainte, sans... On est au bar tous ensemble et puis ça commence à discuter. Et autant les musiciens étaient ravis d'avoir une salle qui avec une merveilleuse acoustique et puis des merveilleux matériels qui étaient là pour jouer. Puis vraiment une équipe entière disponible à eux. Et autant l'équipe du festival, l'équipe du théâtre était... avait été complètement rafraîchi. Enfin, vraiment, ce terme est venu à sonner à nos oreilles souvent. Ça avait été un bol d'air pour eux d'avoir d'un seul coup une autre inspiration, un autre monde qui arrivait chez eux, quoi.
Quelle est la spécificité de votre programmation? Qu'est-ce que vous défendez qui pourrait être différencié d'autres festivals, quoi?
Ce qui est sûr, c'est que c'est un festival sur l'improvisation musicale. Donc, on va dire que dans d'autres festivals, il y a souvent un rapport où il y a une mixité entre musique écrite, musique improvisée ou improvisation, danse, musique. Le focus peut être sur l'improvisation musicale, mais il y a d'autres choses qui tournent autour. Alors que nous, comme on se situe dans un théâtre où il y a déjà beaucoup de théâtre, beaucoup de danse, on a vraiment cherché à ce que ça soit vraiment de l'improvisation musicale. Et par contre, on s'est aperçu, par exemple, dans chaque journée, il y a un rapport entre tradition, improvisation. Par exemple, Uruk, c'est un projet avec Hamid Drake, et puis qui quand même qui est mené, qui a cette tradition du free jazz noir américain. Svetlana Spachik, qui a cette tradition de la voix bulgare. Oui. Ganesh Anandan, qui travaille sur des instruments de tradition indienne. Donc il y a un rapport entre tradition, improvisation, entre improvisation venant des gens de différents backgrounds, que ce soit la musique contemporaine, le jazz, le rock, le punk, la poésie sonore. Donc c'est vraiment un rendez-vous musical. Et on a essayé de construire une programmation qui était où les gens venaient de différents horizons.
Oui, c'était ma question d'après. Il y a effectivement une large palette esthétique et ma question c'était le point commun, mais je pense comprendre que c'est l'improvisation.
C'est ça.
C'est ça. Ouais. Alors pourquoi ce nom, Paysage d'écoute?
C'est toujours difficile de trouver un nom de festival. À vrai dire, quand Harry Rosenau nous a proposé de faire ce festival, pendant un moment, on s'est dit, ça va se faire, ça va pas se faire, on savait pas trop, ta ta ta. Et puis, à un moment donné, arrive le moment crucial où il faut donner un nom à l'événement. Et ça, au départ, ça s'appelait Horizon, paysage d'écoute, et on a pensé que c'était trop long et que paysage d'écoute, c'était plus propice. Peut-être justement parce qu'on avait envie de... C'était pas une seule improvisation, c'était pas une seule manière d'écouter, c'était différents points de départ ou points d'horizon par rapport aux improvisations musicales. Donc, qu'est-ce que pourrait être... Quel paysage on peut offrir aux gens d'écouter.
Alors moi, j'avais une autre idée, et puis c'est aussi en lisant la programmation, je m'étais demandé si c'était pas ce terme de paysage d'écoute, le paysage, est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose à voir avec la dimension liée au visuel, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à voir avec ce qui est donné à voir dans les concerts ? Plusieurs concerts avec de la lumière, ou tu vois.
C'est vrai que cette année, il y a une performance de Li Pingting et puis cette performance live de Michael Folfert. Je pense que je ne sais pas si c'est effectivement si c'est lié au visuel, mais c'était. Je pense que si ça avait été aussi un festival qui aurait été programmé ailleurs, comme par exemple, bon, moi j'avais l'histoire de Fruits de Mer, mais là où on habite, ou je sais pas, on aurait pensé différemment, mais le fait que ça s'inscrit dans une programmation d'un théâtre institutionnel, je sais pas, peut-être on avait cette image d'autres paysages pouvant être proposés dans cette programmation.
Alors j'aimerais bien que tu dises toi-même ce qu'on va écouter, parce que j'ai déjà essayé hors antenne, j'y arrive pas. Svetlana, nous allons écouter Svetlana Spajic et Anna Mratinkovic.
Donc Svetlana Spajic est une chanteuse serbe que Franz connaissait depuis un petit moment. Moi, je l'avais rencontrée, on avait partagé une scène il y a quelques années. Et après ce projet, on a eu le désir de l'inviter parce que ce duo qu'elle va faire avec Anna, c'est un duo où dans la tradition du chant serbe, il y a des chants où les deux voix sont presque se travaille à la seconde, donc sont vraiment sur la dissonance. Et elle mène c'est une personne qui mène en même temps un travail de recherche par rapport aux anciens, où elle va tous les étés dans les villages pour récolter des chants, travailler avec les anciens sur la danse, sur le chant, sur la tradition. Et en même temps, elle est profondément ancrée dans le fait de comment faire vivre cette tradition dans les musiques d'aujourd'hui. Elle est profondément attirée par tout ce qui est le monde des musiques expérimentales. Donc ça nous semblait important qu'elle soit présente et qu'on fasse entendre ce chant qui est rarement entendu ici.
Oui, puis ça change un petit peu. Hein. C'est vraiment une esthétique différente de ce qu'on écoute dans les festivals de musique improvisée. Eh bien, on écoute Svetlana Spajic et Anna Mratinkovic.
Mm-hmm.
Peux-tu nous parler des lieux qui vous accueillent, c'est-à-dire, enfin, du lieu en l'occurrence. Donc c'est parce que tu disais tout à l'heure qu'il y a deux lieux dans la scène nationale, mais là, tous les concerts, me semble-t-il, seront à l'Espal.
C'est ça. Les Quinconces, l'Espal, scène nationale du Mans, sont deux théâtres. L'Espal, c'est le plus ancien, donc qui a été mené, enfin, qui a vraiment été monté par Harry Rosneau, qui est l'ancien directeur. Maintenant, la nouvelle directrice, c'est Virginie Bocard, donc qui a pris ses fonctions depuis mai dernier ou quelque chose comme ça. Et donc, les Quinconces, c'est un grand théâtre qui est au centre-ville, une grosse salle de 800 personnes. Et l'Espal est dans un quartier en dehors du Mans, un quartier beaucoup plus populaire. Et il nous a semblé que le lieu était plus propice, la salle est plus petite, la convivialité de ce lieu est plus forte. Et puis surtout, c'est l'âme de ces deux théâtres, parce que c'est là où toute l'histoire s'est créée. Donc je pense que c'était l'équipe du théâtre avait envie, je crois, que cette nouvelle pratique, parce qu'on peut vraiment parler on peut vraiment dire que pour eux, c'est vraiment une ouverture vers une nouvelle forme esthétique, une nouvelle pratique musicale. Et ils avaient le souhait que ça soit là où l'âme du festival est la plus forte.
Oui, bien sûr. Et alors justement, les scènes nationales, il y en a une petite centaine en France, hein, tu sais. Et elles sont moins de 5 à accueillir régulièrement. J'avais compté, c'est pour ça que je sais. Et elles sont très peu à accueillir régulièrement des musiques de création, des musiques innovatrices, des musiques dont on parle dans l'émission. Ce qui est par ailleurs l'une de leurs missions d'accueillir ces musiques-là, mais elles ne le font pas. Ils accueillent en musique, ils accueillent de la variété souvent. Je voudrais savoir si ce cadre de scène nationale, donc un label, un lieu labellisé, est-ce que ça a une influence sur la programmation et également sur les objectifs que vous fixez peut-être en termes de programmation ou de rapport au public.
Quand l'année dernière on a fait la première programmation, on avait essayé de faire une programmation qui était très douce d'écoute. Je dirais pas forcément facile, mais douce à écouter. Parce que comme c'était un public non averti, on a essayé vraiment de se dire mais quels sont les amis, quels sont les groupes qu'on aime profondément et où on sent que c'est tout aussi évidemment expérimental et puis radical, etc. Mais il y a des propositions, par exemple, je pense à Dans les arbres, Tony Buck et Magda Mayas, Will Guthrie. Il y avait tout un ensemble de propositions où on sent qu'on rentre dans la musique d'une manière d'une manière tranquille, je veux dire, d'une manière. Et on avait pensé cette édition de cette manière-là, parce que c'était la première et qu'on souhaitait que ça soit une approche la plus douce. Et la deuxième édition, on l'a faite donc en pensant à des points d'attache différents. Donc, comme je disais avant, du free jazz, de la musique traditionnelle, de la musique contemporaine, de la performance, de la poésie sonore, du punk, du rock, de sentir qu'il y avait de la musique électroacoustique, de sentir que les points de départ étaient différents. Et puis, on espère que ce festival va se poursuivre, parce qu'il y a un changement de direction, donc on ne sait pas comment sera le futur, mais c'est sûr que ça nous semble vraiment très important que ces pratiques-là, on l'a vu l'an passé, que cette pratique de l'improvisation se retrouve dans un contexte plus conventionnel. On n'a pas peur de... c'est une scène nationale. Et qu'en même temps, chacun puisse bénéficier en même temps du savoir-faire, du savoir-vivre et des compétences des uns des autres. Parce qu'on sent que là, il y a un terrain d'échange, de rencontre qui est vraiment nécessaire. Pas pour les mêmes raisons, mais c'est nécessaire pour chacun.
Ouais, bah, notamment, je voulais savoir, est-ce qu'il y a l'idée de valoriser ces musiques auprès d'un public plus large, un public des abonnés du théâtre, par exemple, enfin, des gens qui vont au théâtre et qui, comme tu disais, qui ne connaissent pas forcément ces musiques. Est-ce qu'il y a cette idée-là de faire connaître les musiques?
Oui, bien sûr. Et ouais. C'est vrai que... Donc, bon, nous, on a animé ces ateliers d'improvisation. Donc, il y a un groupe qui est porteur de cette énergie-là, qui, en plus, maintenant, va dans les festivals. On les retrouve dans les, soit à Météo, soit à Densité, soit au Bruit de la Musique, enfin, au Festival français. Ils vont faire des ateliers ailleurs. Donc, il y a vraiment un groupe qui est très en demande d'improvisation et qui, vraiment, il y a une âme de ce groupe-là. Justement, on revient d'un atelier de 3 jours et on sent qu'ils sont c'est des fervents défenseurs maintenant de cette ouais. musique là mais c'est vrai que ben le public de les abonnés de ce théâtre ne connaissent pas forcément ces musiques et l'année dernière ils sont venus découvrir et c'était très étonnant de voir leur réaction qui était pour tous vraiment je connaissais pas, ça existe et c'est tellement bon. Donc c'est nécessaire, oui, de pas priver un public de ces pratiques-là.
Ouais. Ben justement, alors tu parlais de la première édition. Est-ce qu'il y avait une majorité de Mansou? Est-ce qu'il y avait des gens qui venaient de l'extérieur? Comment ça se répartissait un petit peu?
Je ne sais pas la proportion, mais ouais. c'est vrai que c'était un mélange des deux. Ouais. Et l'équipe aussi, d'ailleurs, du festival, l'équipe du théâtre, a vraiment apprécié qu'il y ait un public extérieur. Ouais. Et que finalement, c'est pas si évident ou c'est pas si courant. Et ça a été vraiment très apprécié.
Tu parlais d'atelier, donc là tu reviens d'un atelier au Mans. Est-ce qu'il y a par exemple peut-être pour l'avenir, ou comment tu fais avec ça, des workshops ou ce qu'on appelle les actions culturelles?
Quand on a fait les ateliers France et moi au Mans jusqu'à 2017, c'était des ateliers qui menaient sur des créations. Donc on y allait tous les mois, 3-4 jours. Donc c'était ouais. plus que des workshops, c'était vraiment des gros moyens qui étaient donnés pour des créations avec des amateurs. On espère reproduire et réinventer d'autres projets. On attend que le festival se passe et puis voir quelles seront nos collaborations futures ou avec la nouvelle équipe. Mais donc c'était plus que des actions, ça a vraiment été des projets de création avec des amateurs et c'est ce qui était aussi c'était une identité très forte de ce théâtre, de travailler vraiment avec la population mancelle.
Et alors, sur le site, je crois, il est question de vous parler de prendre part à un écosystème social et musical. J'aimerais bien que tu nous expliques.
C'est effectivement comment partager ou comment faire rentrer une nouvelle pratique. Une nouvelle pratique pour la programmation de ce festival. Et pas pour nous, évidemment, la pratique, elle n'est pas nouvelle, mais comment gérer ce qui est effectivement ce qui existe déjà, ce qui est logique dans cette programmation, dans cette région, dans le rapport entre l'Espal et les Quinconces, le rapport au quartier de l'Espal, comment on essaye d'intégrer cette population. Il y a 80 nationalités dans les quartiers des Sablons, là où se trouve l'Espal. Donc comment essayer de travailler avec cette population, de les intégrer à des ateliers, de les intégrer... Par exemple, le fait que Alfred Spirly ouvre le festival, c'est un concert qui est accessible à tous, qui ne va pas se situer dans la salle de spectacle, qui va être dehors, qui va être dans le hall. Voilà, une invitation à ce que ça soit ouvert.
Je voudrais savoir, tu parlais de convivialité, et c'est, il me semble effectivement assez important dans un festival, et j'en ai connu dans le Morvan, qui était assez fort pour ça. Mais je voudrais savoir, au Mans, à l'Espal, comment est-ce qu'il y a des initiatives mises en place afin de favoriser cette convivialité, je ne sais pas, par rapport au lieu, au dispositif?
Alors là, je ne pourrais pas dire en général, parce que n'habitant pas là-bas, je ne sais pas comment ça se passe.
Ouais.
Ah, pendant le festival, c'est par exemple pour moi, c'est une histoire vraiment très particulière, parce que c'est vrai qu'ayant co-organisé Fruits de mer avec Jacques Di Donato pendant 10 ans, et on était responsable de tout, on pouvait tout fabriquer, tout inventer, tout était ouvert. Là, c'est comment se respecter l'un l'autre, comment s'écouter l'un l'autre, comment amener notre idée d'une certaine convivialité, une idée d'un certain festival au sein d'une équipe qui est absolument merveilleusement ouverte et puis en même temps absolument organisée. Donc comment cohabiter et comment créer une convivialité qui correspond aussi à ce qu'on imagine d'un festival de musique improvisée avec une équipe qui habite là au quotidien. Mmh. Et donc, comment respecter leurs règles, comment proposer nos idées. Donc, ça, c'est très intéressant d'inventer. Parce que forcément, c'est une autre convivialité. Il y a aussi beaucoup de règles, des choses qu'on peut pas... On n'est pas si libre d'inventer une convivialité dans une scène nationale que dans la prairie de Didier à Brassy. C'est pas du tout la même chose. Donc, c'est intéressant de travailler sur cette... comment se respecter et comment s'inventer l'un l'autre, quoi.
Oh. Bah, très bien, très bien. Je propose un petit peu d'accordéon avec Andrea Parkins. Tu veux nous en dire un petit mot d'Andrea Parkins?
Ça nous semblait... Enfin, on est très, très heureux d'inviter Andrea, qui est donc évidemment une figure emblématique des musiques new-yorkaises. Bon, maintenant, elle habite Berlin. Et puis, emblématique du monde de l'accordéon et de comment elle a pu développer et puis proposer une autre écoute et un autre vocabulaire, une autre transformation de cet instrument qui est si connu dans notre...
Notre
chère
pays.
Culture française.
Ben oui, alors on verra, on va entendre qu'il n'y a pas seulement que de l'accordéon, il y a aussi pas mal
d'électronique.
D'effets électroniques. Ouais.
Thank you.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres, consacrée aujourd'hui au festival Paysages d'écoute. Nous sommes avec Isabelle Dutoit. Alors Isabelle, on va passer à la programmation, on va rien inventer de novateur, là. On va dérouler le fil des journées. Il y a 2-3 jours. Eh ben, commençons par le vendredi soir. Le premier concert, c'est, tu l'as dit, Alfred Spirelli en solo. Et est-ce que tu peux nous parler de cette proposition singulière à plusieurs titres? Parce que je crois que ce n'est pas un concert frontal.
Non, c'est un concert déambulatoire. L'année dernière, Alfred Spirelli était au Mans pour le système Frisch. Et il avait fait une action dans le hall avec un de ses objets. Et c'était tellement beau de voir d'un seul coup cette surprise. Et puis Alfred, c'est un magicien, c'est vraiment un imaginaire débordant d'idées, de sons, de situations. Et ça nous semblait le plus juste pour donner l'envie, ouvrir l'écoute, ouvrir la curiosité et puis être étonné comme un enfant est étonné devant les jeux.
Ah oui, je le connais depuis longtemps, je l'ai vu à Mer et je l'ai revu à plusieurs reprises chez notre camarade Anne Montaron, notamment avec System Frisch, oui, évidemment, et une autre fois. Et je suis toujours étonné de... Il aime bien aller dans le public, de toute façon, hein, il aime bien... Il fait chaud, quoi.
C'est vrai que c'est toujours surprenant et en même temps, c'est tellement simple et c'est tellement gracieux, c'est tellement élégant. C'est juste une petite merveille.
Et alors, quand tu parles de déambulation, ce sera quand même dans le sein du théâtre?
Oui, ça sera, je pense, sur le parvis. L'Espal, il y a un grand parvis. Et puis, ça sera dans le hall. C'est un merveilleux hall où il y a des expositions, d'ailleurs, avec une grande passerelle. Donc, ça, il va circuler au milieu du public.
Très bien, très, très bien. Alors, la semaine dernière, on a parlé avec Franz de John Tilbury. Alors, il sera là, il sera en duo avec Bertrand Goguet. John Tilbury de AMM, un des pionniers de la musique d'improvisation libre. C'est important de revendiquer cet héritage quasi historique, on va dire maintenant.
Oui, bien sûr. C'est vrai qu'aussi, dans la programmation, d'avoir différentes générations, différents styles, différentes formes d'improvisation. John, c'est un grand maître. J'ai toujours la sensation que quand il me touche le piano, la musique existe immédiatement. Donc on est très heureux de partager cette édition avec lui. C'est une proposition de Bertrand Goguet.
Très bien, ouais. Et alors, peut-être pour terminer ce vendredi soir, cette formation Uruk, comment on dit?
Uruk.
Une formation avec vous deux, Franz et Isabelle, Amit Daek et Michael Zerang. Je ne sais pas si je dis bien, mais vous êtes au premier plan pour pouvoir nous la présenter.
Donc Uruk, c'est un projet de Franz Haudinger. Ouais. C'est deux duos, puisque Michael Zerang et Hamid Drake jouent très souvent ensemble. Ils célèbrent d'ailleurs depuis une trentaine d'années tous les solstices d'hiver, le 21 décembre. Donc c'est aussi un duo très, très poétique. Et c'est une musique qui... l'idée d'un rituel, quelque chose de lié à une forme de rituel dans les musiques d'aujourd'hui ou d'une certaine spiritualité dans l'improvisation. Donc c'est là, ils jouent pas du tout de batterie, ils jouent juste les bendir, les gros tambours, et Hamid chante aussi. Et donc c'est vraiment une musique avec une espèce de transe sur lesquelles on vient.
Et alors,
quelques sons.
Alors un tuyau, est-ce que vous allez enregistrer un disque ou est-ce que c'est un groupe qui tourne, qui fait beaucoup de concerts ou c'est une rencontre?
Non, le groupe a été, Franz l'avait proposé au festival de Nickelsdorf, Confrontation, il y a 2 ans.
Oui.
Et donc il n'y a pas eu d'enregistrement. Là on va faire une tournée juste avant le festival à Ljubljana, Graz, Moscou, Bonn et à côté de Budapest. Et peut-être qu'il y aura un enregistrement qui se fera, mais on espère.
Oui. Ah oui, oui. Et alors, une question un peu plus, en revenant à l'organisation du festival. Les avis divergent. Moi, j'ai eu des réponses différente quand je pose cette question concernant le fait d'endosser à la fois la casquette d'organisateur de festival et de musicien lors de ton propre festival. Quand vous allez jouer, serez-vous totalement disponible, totalement détendu et concentré pour jouer, alors qu'il y a quand même plein des tâches, enfin, vous avez une responsabilité lourde. Comment gérer ça ?
Le fait que ça soit un festival dans un théâtre qui a sa propre programmation, quand Harry Rosenau nous a invités à être curateur, il avait le souhait qu'on y participe. Ah oui. Parce que c'était quand même une relation aussi entre... Enfin, parce qu'on a une vraie relation d'amitié entre sa programmation et nos idées, mais c'était important pour lui qu'on y soit présent. Donc, ça a continué comme ça, parce que aussi par rapport à justement ce groupe d'amateurs avec lesquels on a prolongé le travail et de continuer cette démarche. Et il faut dire que aussi quand même d'être curateur d'un festival dans un théâtre aussi professionnel et aussi performant qu'ils le sont, il y a quand même beaucoup moins de charges de travail que quand on fait un festival par soi-même. Donc c'est sûr que il y a une équipe technique formidable, l'accueil est là, et on a une cuisinière qui est là, tout le monde est là. Nous, on vient juste mettre quelques grains de sel sur la cuisine locale.
Très bien, mais oui, bien sûr.
Donc c'est même si on a une responsabilité, mais ça n'a, ayant vécu les deux situations, c'est pas comparable, quoi. C'est un grand luxe qui nous a été offert.
Bon, on va tous en profiter. Alors
on est contents nombreux.
De vous avoir comme programmateur et comme musicien également. Je propose qu'on écoute Sophie Hagnel, John Edwards et Steve Noble, et nous passerons à l'évocation de la deuxième journée de votre festival Paysage d'écoute.
Thank you.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres, consacrée au festival Paysages d'écoute. Alors, Isabelle, on va parler de la deuxième journée, donc, comme je disais, qui va commencer avec une performance. Une performance de Leaping Thing. Est-ce que tu peux nous en parler ?
Alors, je sais que la performance se fera avec 100 kilos de sel, du bois, des pierres, mais je ne sais pas si c'est vraiment une performance qu'elle va inventer pour ce festival. Avec Franz, nous avions très envie de l'inviter parce que déjà on aime beaucoup son travail et puis d'inviter dans cette programmation musicale une personne qui aborde le son et le monde sonore par le corps, par le geste, ouais. Par la philosophie, par la danse, ou enfin vraiment d'aborder le son d'un autre point de vue.
Ouais, très bien. Et alors, on va aborder le son d'un autre point de vue avec Michael Vorfeld et ses lumières et ses percussions. Est-ce que tu peux donner quelques précisions sur son dispositif ?
Donc là, c'est un dispositif où, d'ailleurs, il ne joue pas du tout de percussions. C'est un dispositif avec que des lampes.
Ouais.
Et il a des lampes et des transformateurs. Et donc, c'est la lumière qui change l'intensité des transformateurs et il joue que de l'électronique par rapport à ça. Et c'est vrai que Michael, il a cette double casquette aussi de musicien, enfin d'ailleurs improvisateur et interprète, et aussi d'artiste sonore, puisqu'il fait beaucoup d'installations sonores. Donc il a cette dimension aussi d'installation soit permanente ou d'installation live, mais là il est à la frontière entre les deux.
Alors on a écouté le trio, fameux trio avec lequel l'après-midi s'achèvera, l'après-midi à l'Espal. Sophie Agnel, Steve Noble et John Edwards, quelques mots quand même sur ce fameux trio.
Oui, on est très heureux aussi parce que Franz, c'est vraiment des amis de longue date. Enfin,
ouais.
Il en a parlé dans l'émission la semaine dernière,
oui.
Avec Steve Noble. Et puis d'ailleurs, il avait fait un merveilleux duo avec John Edwards cette année à l'improviste. Merci Anne Montaron.
Oui.
Et d'inviter Sophie, évidemment. Et d'avoir aussi cette démarche de cette formation classique et d'une musique en même temps très expérimentale, mais liée à cette formation free jazz, avec cette énergie propre à eux trois, enfin cette énergie du corps, quoi, et de sentir après justement la performance de Leaping qui est comment visiter le son par le corps, après de visiter le son par la machine, par les lampes, et de revenir à vraiment à un concert d'une formation classique, mais où les trois musiciens sont extrêmement engagés physiquement. Donc ça a vraiment sens pour nous de finir cet après-midi avec ce trio-là.
Avec ces improvisateurs hors pair. Alors, l'après-midi étant terminé, nous aurons faim. Est-ce qu'il y a des endroits pour se restaurer avant d'entamer la soirée ? Est-ce que c'est prévu, ça ?
Oui, il y aura des soupes concoctées par Sabine Hérondel, qui est une très merveilleuse cuisinière. Et des tartes, des salades, du vin, je ne sais quoi encore, mais oui, c'est prévu, on peut manger sur place.
Ça donne envie. Alors, je propose qu'on écoute Chesterfield. Peux-tu nous en parler, Isabelle ?
Oui, Chesterfield est un duo avec Angelica Castello, qui est une musicienne d'origine mexicaine, mais qui habite Vienne. Et Burkhard Stangl, qui est un musicien de l'avant-garde viennoise. Franz parlait dans son émission la semaine passée de cette scène autrichienne d'où étaient nées les musiques minimales avec Radu Malfatti. Et évidemment, Burkhard Stangl, c'est un grand, grand ami et un grand partenaire de Franz, et ils ont vraiment joué énormément ces musiques et œuvré pour que ces musiques minimales se fassent connaître. Donc c'est un couple dans la vie et sur scène. Et c'est une musique entre, justement, enfin, électroacoustique, musique concrète, parce que Angelica joue les flûtes à bec et puis de l'électronique avec des cassettes. Ah oui. Donc elle va vraiment chercher les sources ailleurs. Et Burkhardt est avec sa guitare. Et puis, donc c'est vraiment un duo qui aussi joue une musique riche de différentes sources.
De timbres aussi, oui. Ouais. Angelica Castillo et Burkhardt Stangl, que moi je connais dans Poète Congrès aussi, et puis aussi FZEG. On écoute et puis on continuera de dérouler la programmation du festival.
Thank you.
Voilà, on parle de la soirée du samedi 23 novembre au festival Paysage d'écoute avec Isabelle Dutoit. Et cette soirée commence avec Ganesh Anandan, percussionniste indien. Je ne connais pas du tout. Comment l'avez-vous découvert ?
C'est un ami de Franz et c'est Franz qui me l'a fait découvrir. Et donc Ganesh, c'était un musicien indien, donc il joue avec des instruments indiens, et évidemment, mais avec de l'électronique. Et donc il y a cette tradition indienne, il a vécu aussi à Montréal, maintenant il habite à Berlin. Ça sera une performance aussi avec des vidéos. Et donc je pense qu'ils avaient joué il y a très longtemps ensemble, ils se sont un peu perdus de vue, et puis ils vont se retrouver. Donc voilà, mais c'est aussi une autre approche, une autre tradition, une autre culture, quelqu'un qui a voyagé, qui a vu différents paysages, et puis c'est aussi, donc comme tu le dis, en France, il n'est pas du tout, pas très souvent présent, je pense, et moi je ne le connaissais pas non plus, donc c'est la possibilité de nous faire découvrir. Un nouveau musicien.
Ouais. Alors ensuite, il y aura pour plaisir de le redire, Burkhard Stengel et Angelica Castillo. Mais j'avais une question. Bon là, il s'agit d'un duo qui est rodé. Et une question que je pose de façon récurrente aux organisateurs de festivals, est-ce que vous vous proposez des rencontres entre musiciens ? Vous permettez-vous de suggérer des rencontres ? Ou ce sont deux que viennent les associations inédites quand il y en a ?
Non, on n'a pas proposé de rencontres. Je trouve, c'est toujours... ça peut être difficile. Ça peut mettre le musicien dans une situation en même temps soit formidable ou soit difficile. On a plutôt pris le parti pris de proposer à des musiciens de nous proposer une formation.
Donc,
par exemple, effectivement, on a demandé à Bertrand, on a demandé à Andrea, on a demandé à Sophie, à Niel, on a demandé à Angelica Castello. Donc, on a plutôt demandé un ou une musicienne de nous faire une proposition. Ça nous semblait plus juste dans ce sens-là.
Ouais. Moi, toutes les façons existent. Hein. Toutes les façons de faire existent. Radiant, pour terminer. Oh là là, c'est mes chouchous. Radiant, vont terminer le samedi en apothéose avec, depuis plusieurs années, dans le groupe Martin Seward, le vieux complice de France, dont on parlait la semaine dernière. Est-ce que vous savez quel programme ils vont interpréter ou... Parce que je sais que Martin Brandelmeier a récemment sorti un travail... qui s'intitule « Vivre les fantômes ». Est-ce que tu as des tuyaux là-dessus ?
Alors là, non, je ne sais pas. Nous, on les a entendus en mois de février. Je ne sais pas si ça sera un autre programme. Mais non, je ne sais pas du tout ce qui nous attend.
Oh, bah ça, je...
Mais nous sommes très heureux de finir la soirée effectivement avec eux.
Super groupe. Hein. Moi, je suis assez confiant de toute façon. Quoi qu'il fasse, je propose d'écouter Radiant. Thank you. Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, l'émission Les Oreilles Libres, consacrée aujourd'hui au festival Paysage d'écoute. Avec Isabelle Dutoit, alors nous avons parlé du duo Zveltana Spajic et Anna Mratinkovic, qui commencera la journée du dimanche. Mais on peut poursuivre la programmation. Alors, ça ne commencera pas exactement la journée du dimanche, mais nous reviendrons après sur ce qu'il y aura plus tôt. Shin Baxter, alors là, je ne connais pas du tout. C'est un percussionniste australien.
Oui, c'est un homme formidable, vraiment. Il y a 2 ans, on était au Festival Densité et on a écouté tous les concerts. Et le dernier concert, on s'est dit, oh, on était tous fatigués. Et solo de batterie. Et moi, je ne connaissais pas du tout Shin Baxter et c'était juste un émerveillement total. Il a rassemblé tout le public qui était fatigué. Et enfin, je sais pas, c'est comme ça qu'on l'a perçu. Et c'était tellement merveilleux, tellement. Moi, je me suis dit, mais ça, j'ai jamais entendu. C'était avec France, on s'est dit, mais ça, c'est incroyable. Et puis, nous, on a eu la chance, justement, quelques mois après, d'être en tournée en Australie. On a joué avec lui et on a pu passer du coup aussi du temps avec lui. Et c'est un homme formidable qui a décidé de ne jamais devoir répéter la musique. Donc, il est vraiment toujours dans une situation live où il ne veut surtout pas se retrouver en train de devoir répéter quelque chose pour faire après. Et je ne sais pas, on a été enchantés autant par le musicien que par son esprit, son âme, sa convivialité. Justement, on parlait de convivialité tout à l'heure, et c'est quelqu'un qui aime tellement la vie, qui aime tellement la musique, qui aime tellement l'échange que voilà. Il sera, d'ailleurs, il viendra aussi, il fera un solo aux Instants Chavirés et aussi à la Malterie. Et on jouera en trio à Jazz à Poitiers.
Super, super, donc une tournée. Et alors, c'est le quatrième, alors bon, évidemment, tu nous as dit, Michael Vorfeld ne jouait pas de percussion mais des lumières, mais c'est quand même le quatrième percussionniste après Alfred Spirli, Ganesh Anandan. On aurait pu presque faire un fil rouge avec cette histoire de percussionniste solo, non ?
Ah oui, parce qu'il y a Alfred, Spirli, Hamid Drake, Michael Zerang,
ah oui.
Effectivement, Michael Vorfeld.
Non mais je parlais en solo, tu vois.
Ah oui, oui, oui. Eh oui, c'est vrai. C'est vrai. Bah, on a remarqué qu'effectivement, il y avait beaucoup de percussionnistes et on doit vraiment aimer la percussion. On aime vraiment beaucoup les percussionnistes.
Et alors, pour terminer le festival, carrément, hein, ça se termine avec nos amis Anjem Chaton et Andy Moore. Quelques mots sur ce duo, allez.
Bah, qui n'est pas fan de ce duo ? C'est vrai que c'est... C'est tellement, déjà ces deux artistes tellement incroyables et leur collaboration, elle est unique. Enfin, c'est vraiment ce monde de la poésie sonore avec cette guitare punk, enfin, qui en même temps propose un univers sonore tellement large et puis en même temps une rigueur. Je sais pas, il y a quelque chose qui continue toujours à me séduire et puis à me dire mais jusqu'où ils vont aller et comment qu'est-ce que sera demain avec eux.
Oh, c'est bien dit ça, ouais, ouais, ouais. Et alors on parlait du dimanche matin, je crois que c'est la fanfare de la Touffe. J'aimerais bien, bon, pour vous dire, nous avons fait une émission entière, une longue émission d'ailleurs. Nous avions été dans un collège à Montreuil, on avait un reportage radio avec Fabrice Charles. Donc nos auditeurs les plus fidèles connaissent la fanfare de la Touffe, mais peut-être tu peux rappeler quand même les modalités.
Voilà, ben là, la fanfare de la Touffe, parce que c'était une volonté aussi qu'il y ait une pratique, que les amateurs puissent avoir un rapport avec l'improvisation. Et donc là, c'est vraiment un one-shot où il y a une répétition de 10h à 12h avec Fabrice et Alfred. Donc chacun prend un instrument, choisit son instrument, Fabrice donne quelques consignes. Et à midi, on se retrouve sur la place du marché. Au Mans, il y a un énorme marché le dimanche matin qui est magnifique. Vraiment un très très beau marché. Et donc rendez-vous sur la place du marché pour faire sonner la fanfare.
Donc il y aura juste un seul rendez-vous.
Oui, c'est un one shot, c'est vraiment une répétition.
D'accord, vous avez parlé hop. De ça. Ouais. Ah bah super, super, on en sera. On viendra, on participera même, j'espère bien.
Ah oui.
Ah oui, il faut s'inscrire avant.
Il faut s'inscrire, ouais.
Ah bah, moi, je m'inscris directement dès ce soir.
Et d'ailleurs, je peux aussi dire que si certains de vos auditeurs sont vraiment intéressés pour venir, c'est aussi bien de faire les réservations maintenant, parce que si ça prévoit, par exemple, savoir combien de spectateurs, même pour justement les notions de catering ou de possibilité de... Voilà, c'est pas mal si on sait combien il y a de spectateurs avant. Donc on vous invite à faire des réservations.
Bah, ma dernière question, je crois que tu as déjà un petit peu répondu, Isabelle. Quand on avait fait l'émission avec toi à Nancy, là, tu nous avais dit que les raisons qui t'avaient poussé à arrêter Fruits de Mer, bah, c'était que ça devenait, tu devenais administratrice et que tu avais beaucoup de... Bah, c'était une charge incroyable et que ça te prenait beaucoup de temps sur ton travail de créatrice, quoi, de ton travail créatif. Alors, ne crains-tu pas à nouveau ce...
Si, on se fait toujours rattraper parce que je pense qu'il y a, une partie de moi qui est, je pense aussi d'ailleurs qui aime ça, enfin, d'être dans l'organisation. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, on se fait rattraper par le fait de vouloir faire au mieux. Mais bon, là, ça, évidemment, ça n'a quand même rien à voir
oui,
par rapport
c'est
à...
c'est ce que tu expliquais tout à l'heure. C'est...
Voilà, parce qu'il n'y a pas de demande de subvention à faire. Il n'y a pas... Enfin, toute l'infrastructure, évidemment, c'est vraiment...
Tu ne fais pas la soupe?
Je ne fais pas la soupe. Je ne fais pas... Non, là, je m'occupe, effectivement... Enfin, Franz et moi, on s'occupe de la programmation, du contact avec les artistes, qui maintenant, en plus, est relayé par l'administration à partir de maintenant, parce que... C'est plus, après des fiches techniques, des voyages et tout comme ça. Mais évidemment, c'est quand même beaucoup, beaucoup moins de charges que ce que j'ai pu connaître dans mon passé.
Tu nous rassures, alors ça veut dire que ça va durer, on espère.
On espère que c'est toujours... c'est délicat parce que, on a commencé ce festival avec une direction. Il y a un changement de direction. Est-ce que commencera une collaboration future ou est-ce que les ondes et les vibrations seront partagées? On le souhaite évidemment, mais c'est vrai que chacun aussi et chacune a ses idées. On espère évidemment que ça sera. Que ça sera présent dans les années futures. Et aussi, Le Mans devient, il y a une biennale du son qui a son premier, la première biennale du son. Donc c'est une ville quand même qui va mettre un accent sur le sonore. Donc peut-être on a des chances que ça se poursuive.
Que ça perdure, espérons-le. Alors pour conclure, peut-être Isabelle, il faut nous redire toutes les infos, je ne sais pas quel type d'infos d'ailleurs. Vous avez un site internet qui est très bien où on trouve tout ça. Mais...
Oui, il faut aller sur le site quinconce-espal.com et là il y a toutes les informations.
Il y a les tarifs, il y a un pass, j'imagine.
Il y a un pass. Alors faut pas être. C'est vrai qu'au niveau des tarifs, c'est un peu spécial parce que ça s'inscrit dans une programmation du théâtre. Donc par rapport à leur façon de fonctionner, ça marche par 3 concerts. Un ticket, c'est 3 concerts. Il y a un pass. Mais aussi, on peut pas... Par exemple, il n'y a pas un pass par jour. C'est le samedi, c'est 2 tickets pour 3 concerts.
Oui,
mais un ticket, c'est 3 concerts. Ouais. Et puis, voilà, aussi, le numéro de téléphone, c'est 02 43 50 21 50. 02 43 50 21 50.
Pour les
et
histoires
le site quinconce-espal.com.
Oui, pardon. Pour les histoires d'hébergement, tout ça, on voit ça avec...
Soit avec le théâtre ou les Airbnb ou les hôtels. Ou
l'office
les...
du tourisme, j'imagine, également.
Oui, c'est ça.
On va se débrouiller, t'inquiète.
Mais l'équipe d'accueil du théâtre, c'est vraiment des personnes d'une gentillesse extraordinaire, donc on peut leur tout leur demander.
Bon, on va pas se gêner alors. Peut-être aller aussi, puisque tu es là, on va peut-être des petits tuyaux aussi. Quelles sont tes idées de création à venir concernant toi, les formations dans lesquelles tu joues, tes prochains concerts et...
les prochains concerts, c'est donc cette tournée avec Ourouk.
Ouais.
Le groupe avec Franz Hautzinger, Hamid Drake et Michael Zerang. Après, un projet qui m'est très cher. L'année passée, j'ai passé une année à faire un dessin tous les jours. à faire une photo du monde tous les jours et une photo un autoportrait tous les jours. Ouais. C'est un projet qui est né de certaines collaborations que j'ai eues avec Nadia Vadorigottier, qui fait une minute de danse par jour depuis des années, depuis les attentats de Charlie, comme acte de résistance poétique. Et en ayant travaillé avec elle, j'ai eu le désir d'avoir un acte de création quotidien. Donc c'est passé par des traces de dessins et de photos. Et de ce travail-là naît un solo qui s'appelle Libelle, dont l'installation sera tous ses dessins, ses photos et ses autoportraits. Donc ça, c'est un projet sur lequel je travaille en ce moment et qui sera sa première étape au festival Écoute Voir, festival de Francis Plisson, merveilleux festival autour du corps et du son à Tours. Donc festival Écoute Voir.
Eh ben, merci beaucoup Isabelle.
Merci à toi Christophe.
Et puis à très très bientôt au Mans.
Oui.
La semaine prochaine, nous recevons Léonore Boulanger. On se quitte avec Hérétiques, Anne-James Chaton et Andy Moore. À la semaine prochaine. Salut.
Salut.
Je sais que les hommes ont tué des animaux. Je sais que la pierre est principe et fin de tout corps. Je sais que l'opus alchimique est l'effort de l'homme salvateur. Je sais que la matière de l'œuvre est enfermée dans l'œuf philosophique. Je sais que la maîtrise de l'énergie sexuelle joue un rôle magique. Je sais que l'alchimie n'a pas été un phénomène isolé. Je sais que le Saint-Office était parfois l'organisme le plus objectif de son époque. Je sais que les comtes juraient de prêter main forte à l'Église. Je sais que les habitants faisaient serment de dénoncer à l'évêque toute personne soupçonnée d'hérésie. Je sais que les évêques visitaient eux-mêmes les villes et villages de leur diocèse. Je sais que les fauteurs d'hérésie étaient déclarés infâmes. Je sais que les seigneurs doivent rechercher les hérétiques. Je sais que certains ennemis de l'Église ont un pouvoir considérable. Je sais que les victimes furent innombrables. Je sais que les classes cultivées admirent la perpétuelle présence de Satan. Je sais que la certitude soutient et aveugle. Je sais que Philippe IV assista à l'autodafé du 30 juin 1680. Je sais que le pape Alexandre VI a divisé le monde en deux. Je sais que la peur de la contagion religieuse poussait les orthodoxes espagnols. Je sais que les 73 condamnés furent exécutés. Je sais que l'Avesta a été compilée dans sa forme définitive à partir de l'an 220 de notre ère. Je sais que les manichéens ont tourné la difficulté d'élégante façon. Je sais que la théorie de Mann demeurait l'ennemi le plus redoutable. Je sais que les bribes de la pensée primitive se détachent au gré des remous. Je sais que les politiciens dissimulaient leur doctrine. Je sais que leur religion se situe entre celle du Christ et de Zoroastre. Je sais que Cosmas décrivait les Bogomiles de Dragovista. Je sais que Pierre de Castelnau prononça une condamnation. Je sais que le pape décida de donner les pleins pouvoirs à ses légats. Je sais que Simon de Montfort écoutait la messe. Je sais que Blanche de Castille fit preuve d'une habileté vraiment diabolique. Je sais que Montségur était réellement imprenable. Je sais que les assiégeants essayaient péniblement de bombarder. Je sais que la capitulation devenait inévitable. Je sais que Pierre d'Auteuil dut lever le siège. Je sais que le tout finit par devenir indiscernable. Je sais que l'Église n'avait pas toujours eu une attitude pouvant inspirer confiance. Je sais que le signe de la Vierge correspond au ventre et aux intestins. Je sais que les âmes célestes peuvent s'unir à des corps grossiers. Je sais que les dissensions se sont développées. Je sais que Urbain V n'avait laissé à Rome aucun échelon administratif. Je sais que l'élu n'est pas romain. Je sais que le médium est le jouet d'un esprit trompeur. Je sais que l'incarnation est l'épreuve de choix. Je sais que les laïcs doivent rechercher la sainteté. Je sais que le tout a une valeur d'éternité.